Voilà, ceci étant dit, maintenant nous entrons dans notre grand sujet que je ne prétends pas traiter comme cela de manière exhaustive en quelques trois réunions. Il est énorme. Mais nous allons essayer d'en dire l'essentiel et surtout de tirer de nouveaux trésors touchant à l'Église dans ce livre très ancien de la parole de Dieu. Et pour introduire, en tout cas, notre sujet de ce soir, nous lisons plusieurs versets. Un premier verset en Matthieu, chapitre 16, texte bien connu, à partir du verset 13e. Si de temps à autre j'avais recours à mon verre d'eau ou à mon mouchoir, vous m'en excuserez. Merci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous tournons quelques pages pour lire d'autres versets touchant à l'Église, au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Texte bien connu, nous commençons avec le verset 22e. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. De quelle façon? Le Christ a-t-il aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Par ces textes, le Seigneur a voulu nous faire savoir ce qu'il entend par l'Église au regard de sa personne. Et pour illustrer justement ce qu'il voudrait de son Église vis-à-vis de lui, il en a référé au couple, à la relation du couple, qui est la meilleure illustration pour nous faire comprendre ce que le Seigneur attend de son Église. Commençons par dire de grandes vérités que nous avons peut-être déjà entendues, que nous connaissons peut-être, mais qui peuvent échapper souvent. Pour commencer, il importe de dire que l'Église, et en particulier l'Église locale, parce que quand nous parlons d'Église universelle, c'est invisible, elle est invisible, par définition. Pourquoi cette remarque ? Il en est plusieurs qui, souvent, viennent à moi lors de séries d'évangélisation pour me dire qu'ils appartiennent bien à l'Église, mais à l'Église universelle. Seulement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à l'Église invisible, ceci, bien entendu, est vrai. Mais cette Église universelle, invisible, cette Église mystique, se concrétise au niveau d'Église locale. Elle devient visible au niveau d'Église locale. Voilà pourquoi Dieu voudrait que l'Église locale soit notre famille spirituelle, où trouver justement tout ce dont nous avons besoin en lui, puisqu'il en est précisément la tête, le chef, comme nous l'avons entendu dans les textes d'Éphésiens 5. Ça ne signifie rien que de dire « j'appartiens à l'Église universelle ». C'est une bonne manière de se défiler, j'allais dire, de l'Église locale d'une façon générale. Ça ne signifie rien parce que cette Église universelle a ses expressions visibles dans les Églises locales, qui doivent être justement ces familles accueillantes pour recevoir ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ et pour les rassembler. Alors, je commençais tout à l'heure une phrase avec ces mots. L'Église locale, bien entendu, faisant partie de l'Église universelle, est ce que le Seigneur a de plus cher, de plus précieux sur cette terre. Il n'y a rien qui lui soit plus précieux que son Église, parce qu'elle est son épouse. Elle est sa fiancée, en réalité, avec laquelle il s'unira dans ce qu'il est convenu d'appeler les noces de l'agneau, Apocalypse 19. Mais en attendant les noces de l'agneau, cette Église qui est sa fiancée, mais à ce point fiancée, qu'elle est déjà appelée son épouse, rien ne lui est plus cher que son Église. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour ce qui vous concerne ici à Ouarkini, le Seigneur n'a rien de plus cher à Ouarkini que l'Église évangélique libre, je ne sais s'il y en a d'autres, peut-être, d'autres églises appartenant à d'autres dénominations. De toute façon, il n'est rien que le Seigneur chérit plus que son Église, quelle que soit sa dénomination. Alors, certains diront, mais peut-être aime-t-il les libristes plus que les baptistes, ou les baptistes plus que les libristes, certainement pas. Nous, nous faisons des distinctions, et je crois qu'il est bon d'avoir chacun ses convictions au niveau de l'Église, tout à fait, n'est-ce pas ? Et je crois que chacun doit trouver sa joie, son plaisir dans l'Église à laquelle il appartient. Je disais ces jours derniers à Montbéliard, à propos justement de rassemblement inter-Église, que nous représentons les différentes dénominations où qu'elles se situent. En Belgique, en France, dans le monde, j'ai cet avantage de passer en presque toute dénomination évangélique qui ont le même fondement. J'ai coutume de comparer l'Église évangélique avec toutes ses dénominations à une armée nationale. Qui peut comprendre en son sein plusieurs corps d'armée? Dans notre armée en France, il y a les fantassins, il y a l'armée de l'air, il y a les parachutistes, il y a différentes épaulettes, il y a différentes uniformes, différents uniformes. Mais on ne verrait pas, j'allais dire, ces corps d'armée se tirer dessus parce qu'ils n'ont pas le même uniforme. C'est ce qui arrive très souvent. Entre dénominations évangéliques, c'est bien dommage, hein? Et ceci présente au monde un visage tout à fait désuni, à nous en pincer le cœur. À partir du moment où nous avons le même fondement, où nous appartenons à cette armée nationale, j'allais dire, qui est l'Église, peu importe le corps d'armée, vous avez des églises qui versent davantage, j'allais dire, dans l'exercice de la prière, de l'intercession, de l'adoration, bien gloire à Dieu. Vous en avez qui versent davantage dans l'évangélisation, etc., ou dans d'autres activités. Bien gloire à Dieu. Il nous faut simplement reconnaître les vrais enfants de Dieu ailleurs que chez nous. Nous sommes autant d'uniformes différents que le Seigneur a permis, mais nous appartenons tous au même corps d'armée nationale pour sa gloire, l'avancement de son règne sur cette terre, et surtout ne nous tirons pas dans les pattes, parce qu'une armée qui précisément se tirerait entre corps d'armée différents, ben, ce serait sa ruine complètement. Il existe aussi des mouvements para-église dont il est important de parler. Alors, disons à cet égard que nous ne sommes pas contre, à partir du moment où ces organisations, ces ASBL, je crois que c'est comme cela que vous dites, chez nous, nous parlons d'associations évangéliques, elles ont leur raison d'être à partir du moment où elles servent l'Église, où réellement l'Église est véritablement l'objectif de ces associations para-Église. J'appartiens à une association para-Église, mon association d'évangélisation intitulée « Aujourd'hui l'espoir », n'est-ce pas ? Bon, cette association se met au service des Églises. Mais ces associations ne doivent jamais prendre la place des Églises. Elles ne doivent jamais desservir les Églises. Et ce que réellement le Seigneur aime par-dessus tout, je le répète, sur la surface de la terre, c'est son Église. Et surtout que nous ne puissions jamais faire un État dans l'État, j'allais dire dans l'Église, voire davantage notre association évangélique avant les intérêts de l'Église. C'est tellement important. Pourquoi cela ? Parce que nous sommes très souvent tiraillés par plusieurs ASBL autour de nous, n'est-ce pas, qui tente, j'allais dire, d'occuper nos gens d'église à ceci et à cela. Et à la fin du compte, très souvent, lorsque nous avons besoin de nos gens dans l'église, nous ne les avons plus. Ils sont engagés, l'un dans cette direction, l'autre dans celle-ci, un autre dans celle-là. Non, la priorité est à notre église, à notre assemblée. Ceci était vraiment à souligner parce que, je le répète, l'Église est sur le cœur du Seigneur. Certainement que le Seigneur aime beaucoup d'autres ASBL, mais elle ne compte pas à ses yeux comme compte son Église. Il faut que le zèle de l'Église nous dévore. Telle a été la parole de Jésus-Christ aux Juifs lorsqu'il avait dû les chasser du temple à propos de sa maison. Or, nous savons que l'Église a pour métaphore aussi la maison de Dieu. Dans la lettre à Timothée, par exemple, l'apôtre en parle. Il est donc important que le zèle de l'Assemblée nous dévore. Nous sommes appelés aussi à aimer l'Église. Pourquoi encore cette grande vérité? Parce que vous en avez qui traitent leur église un peu comme cela, par-dessus la jambe, n'importe comment. Et souvent, on vient vers moi pour me dire, « Oh, si vous saviez ce qui se passe dans mon église, vous ne parleriez pas comme ça, Alain Joaquier. » Mais où est-elle l'église parfaite? Désignez-la en Belgique. Vous savez peut-être ce qu'un jour Billy Graham avait pu dire à propos de l'église parfaite. Il disait, vous en avez qui butinent d'une église à l'autre, ils n'arrivent pas à se situer quelque part, n'est-ce pas? Alors ils tournent à la recherche de l'église parfaite. Mais sitôt trouvée cette église parfaite, elle cesse de l'être parfaite à partir du moment où ceux qui tournent et butinent en font partie. Parce que personne n'est parfait. Peut-être l'avez-vous entendu de Billy Graham, comme c'est mon cas. Il est normal que nous ayons des problèmes dans l'Église. Il est normal que l'Église, sur cette terre, ait à affronter souvent des crises difficiles à passer. On me pose la question souvent, est-ce qu'il est normal que nous vivions ce type de crise de souffrance, de larmes? Tout à fait. Ce qui n'est pas du tout normal, c'est que nous n'en sortions pas de nos crises. Et que pour finir, nous les traînions comme des boulets, elles finissent par nous user. Ah oui, ça devient dangereux. Comme donnant l'impression que le Seigneur lui-même est incapable de résoudre nos problèmes. Heureusement que non, hein. Il a réellement les solutions pour son Église. Je me souviens de ce que me disait celui qui m'a conduit au Seigneur, voilà, 41 ans. Il me disait, il nous disait, nous étions un petit groupe de jeunes, à construire, à bâtir de nouvelles églises, vous aurez des problèmes. D'énormes problèmes, et surtout, si tout à coup, vous n'avez plus de problèmes, alors, remettez-vous en question. À quel niveau? Eh bien, tout simplement que... il n'y a qu'au cimetière, nous disait-il, qu'il n'y a pas de problème. Parce que les morts sont allongés, n'est-ce pas, les uns à côté des autres, et c'est le calme plat. Ils ne se lèvent pas pour aller se taquiner, se piquer, se chamailler, non, hein. Alors, si vous voulez des églises du type cimetière, allez-y, vous n'aurez pas de problème. Des églises mortes. Mais si vous voulez une église vivante, vous aurez des problèmes. Parce qu'alors, vous aurez affaire à l'ennemi, et cet ennemi fera tout pour vous rayer de la carte. Mais sachez que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Voilà quelques idées qu'il fallait absolument souligner avant d'entrer dans notre sujet. Et pour commencer, il est important que nous en arrivions à comprendre ce qu'est l'Église. Nous en arrivions à la définir à partir de son mot, j'allais dire, de son terme en grec, à l'origine. Il a plu à Dieu de choisir des termes qui n'avaient rien de biblique, ni d'évangélique, ni de chrétien, pour en faire des mots chrétiens, pour en faire des mots bibliques, des mots évangéliques, comme c'est le cas par exemple du mot ecclésia, comme c'est le cas du mot grâce, charis. Ça n'avait aucune consonance chrétienne à l'origine. Dans la Grèce ancienne, le mot charis représentait la beauté suprême. Alors, il n'a plu à Dieu de choisir un tel terme pour lui donner dans la Bible un sens tout à fait remarquable. Et il s'agit souvent de mots qui n'entrent pas facilement dans une définition. Ces mots que Dieu s'est choisi, comme le mot évangile, qui signifiait « bonne nouvelle » dans la Grèce ancienne, qui n'avait aucune consonance chrétienne, qui existait des siècles avant Jésus-Christ. Et Dieu s'est choisi de ces termes-là pour que la bonne nouvelle soit prêchée un peu partout dans le monde. Mais revenons au terme qui traduit en français le mot « église », c'est le mot grec « ecclésia ». Ce mot grec « ecclésia » est fait de deux mots. Du mot grec « ek » qui veut dire « hors de ». Et de cet autre mot « kaleo » qui signifie « appelé ». L'Église, donc, est faite de ceux et celles qui ont été appelés, kaleo, hors de quoi ? Hors du monde, et ce pour plusieurs raisons que nous allons tâcher de développer au cours de nos études. Le mot « ecclésia », donc, l'Église, si vous voulez, faite de ceux et celles qui ont été appelés hors d'eux, n'a rien à faire avec un bâtiment, de la pierre, des briques, tout ce que vous voulez. La véritable Église est faite d'hommes et de femmes, où qu'ils se rassemblent, quel que soit le lieu de leur rassemblement, ils forment l'Église de Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre ce que signifie le mot « Église », il faut en rester au grec ancien, qui est tellement riche de sens. L'Ecclésia, du temps de la Grèce ancienne, était faite de citoyens en pleine jouissance de leurs droits civiques. Elle était donc faite de citoyens. Il fallait être citoyen grec pour faire partie de l'Ecclésia. Et l'Ecclésia avait la responsabilité de gérer des villes, de gérer des régions, de gérer une justice, une police, etc. Dans les structures de la Grèce ancienne. Il fallait être citoyen grec pour faire partie de l'Ecclésia. Eh bien, ainsi en est-il de l'Église. Hein. Il faut être citoyen de quoi ? Belge. Non, oui, irrésistiblement, quand on est en Belgique. Mais citoyen des cieux, hein, pour faire partie de l'Ecclésia. Or, le Seigneur nous encourage à être de bons citoyens belges, certainement. Mais il nous encourage à être de bons citoyens des cieux. Or, notre cité à nous, dit Philippiens 3, 20, est dans les cieux. Voilà notre cité. Hein. Certaines Bibles rendent par notre bourgeoisie, mais il faut comprendre notre appartenance, en quelque sorte civile, et surtout spirituelle dans ce cas, eh bien, nous sommes citoyens des cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi pour Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, ou bien d'où nous attendons pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation à son retour pour le rendre semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors là, une question, je vous la pose, amis, ne vous connaissant pas tous. Êtes-vous réellement un citoyen des cieux ? Appartenez-vous au Seigneur ? Appartenez-vous à son royaume ? Avez-vous répondu à cet appel qui vous donne le ciel de gloire du Seigneur Jésus-Christ ? Puisque l'apôtre le dit aux Thessaloniciens en ces termes, c'est à quoi Dieu vous a appelé, de Thessaloniciens 2,14, par l'Évangile étant un appel en soi, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense que tant et plus d'amis belges, d'amis français, d'amis suisses, j'étais en Suisse ces jours derniers, ou encore un peu partout dans le monde, ces hommes qui tournent le dos à Dieu alors qu'ils sont appelés à être citoyens des cieux pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme on dit à Paris, ça vous prend aux tripes. Vous vous posez la question de savoir pourquoi un tel refus. Dieu voulant le meilleur pour les hommes, on est assez fou pour lui tourner le dos. Alors, sommes-nous justement de ces citoyens en pleine jouissance de nos droits, par grâce, hein, de nos droits civiques, citoyens des cieux. Leur réunion à ces assemblées anciennes de la Grèce antique commençait par la prière et par le sacrifice, parce qu'on était irrésistiblement religieux. On croyait bien entendu dans des divinités païennes. Mais l'esprit y était démocratique. Deux règles commandées à ces assemblées de citoyens. La première, l'égalité. Tous les citoyens étaient sur le même plan. Voilà pourquoi Paul, peut-être inspiré par le Saint-Esprit, a pu écrire aux Galates, au chapitre 3 et au verset 28, « Il n'y a plus ici dans l'Église ni barbare, ni scythe, ni juif, même ni homme, ni femme, n'est-ce pas, ni esclave, ni libre, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. » Le deuxième mot qui prévalait pour ces assemblées, ces ecclésias, c'était le mot liberté. Elle devait être faite d'hommes libres. Très important cela. Parce que si l'on n'était pas homme libre, on était quoi? Ben, on était esclaves. Et vous savez qu'il y en avait des esclaves. À Corinthe, par exemple, une ville de, je ne sais pas, à l'époque de l'apôtre Paul, certains parlent de 700 000 habitants. Il y avait au moins 400 000 esclaves. On se faisait servir. Alors l'esclave n'avait pas droit de citer ou n'avait pas sa place dans ces assemblées. Ainsi en est-il de l'Église. L'Église est faite d'hommes et de femmes qui ont recouvré une liberté fantastique en Jésus-Christ par la puissance de la croix. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, dit par exemple Galates 5:1. Frères, vous avez été appelés à la liberté aussi, dit-il un peu plus loin dans ce même chapitre. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe comment, c'est-à-dire selon la chair. Alors, là encore, sommes-nous esclaves ou libres? Ça veut dire comment esclaves? On est libre en Belgique. Oui, heureusement. Vous êtes un pays libre, nous aussi en France. Mais voyez-vous, nous parlons de cette autre liberté, de cette liberté du péché dont nous entretient les Saintes Écritures, parce que l'homme, la femme, non encore venus au Christ pour être libérés, purifiés de leurs péchés, sont esclaves de la corruption, dit la Bible. L'Église de Jésus-Christ doit être faite, elle aussi, d'hommes et de femmes, libres, en lui, à celui qui nous aime, dit la Bible, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors, homme libre, femme libre, ou encore esclave, chacun se doit de faire la lumière sur son propre compte ce soir, à la lumière de ce que nous apporte le grec ancien à propos de l'Ecclésia. Il en est question de cette Ecclésia à Éphèse, au moins deux fois au chapitre 19. Au chapitre 19, au verset 32, Et puis au chapitre 19, au verset 39, et là il est même parlé d'une ecclésia, c'est le mot en grec, légale, qui avait donc droit de décision, et pour ce qui était de la circonstance, au regard de Paul et de son compagnon de service. Dans ces ecclésias qui n'avaient rien de chrétien, chaque citoyen libre devait avoir sa place. Je ne sais si nous avons notre place dans l'ecclésia du Seigneur. Alors quand je parle de notre place, je ne parle pas d'une place désignée dans l'église au niveau d'une chaise ou d'un banc. Pas du tout cela. Sa place en tant que citoyen des cieux, sa place en tant que chrétien né de nouveau, homme libre par la grâce de Dieu. Chacun y avait sa place, ses occupations particulières, ses occupations spéciales. Alors là encore, dans mon ecclésia, et en l'occurrence dans celle-ci, est-ce que j'ai non seulement ma place, mais aussi mes occupations précises, c'est-à-dire mes engagements précis. Et chaque citoyen pouvait participer au jugement, il pouvait discipliner, il pouvait aussi avoir son mot à dire quant à la gestion de sa ville et à la gestion de l'ordre dans sa ville, c'est-à-dire de la police, etc. Mais ceci nous renseigne tellement sur ce que Dieu attend de l'Église, et surtout sur ce que Dieu attend de chacun de nous, parce que très souvent, l'Église, nous la traitons, comme je le disais au début du message, un peu par-dessus la jambe. L'Église, oui, mais surtout sans engagement. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route vis-à-vis de cet enseignement déjà au niveau de la Grèce ancienne. Nous devons avoir notre place, nos occupations dans notre église locale. Alors la question est posée, est-ce le cas ou pas? Et nous entrons là, donc de plein pied dans le sujet qui nous intéresse, les chrétiens devant leurs responsabilités dans l'église. Dans la version des Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, qui avait été demandée par un certain Ptolémée Philadelphe, lequel avait régné sur l'Égypte, après Alexandre le Grand, bien entendu. Nous nous souvenons que l'empire d'Alexandre fut divisé en quatre petits empires, l'un à l'ouest, avec Cassandre, l'un au nord avec Lysimaque, l'un à l'est avec Séleucus, et l'autre au sud avec Ptolémée. Alors il y eut la dynastie des Ptolémées comme il y a eu la dynastie des Séleucides, etc. Et ce Ptolémée Philadelphe, justement, faisait partie de cette dynastie des Ptolémées. Il avait demandé à 72 érudits une traduction grecque de l'Ancien Testament, laquelle fut achevée environ 150 ans avant Jésus-Christ. Et dans cette version grecque de l'Ancien Testament, parce que comme vous le savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le mot « ecclésia » revient plusieurs fois et il traduit le mot hébreu « kahal » qui signifie justement « assemblée ». Il est intéressant de se pencher sur ce mot hébreu « kahal ». Ce mot diffère un peu du mot grec ecclésia. Il est important de le citer ici parce que notre mot église dans le Nouveau Testament s'inspire à la fois du grec et de l'hébreu. Le mot kahal signifie en hébreu une convocation lancée avec autorité. Et ceci, cette idée n'est pas, j'allais dire, dans le mot grec ecclésia. Ce mot kahal pouvait être employé ordinairement pour une assemblée d'Israël qui était convoquée avec autorité par l'Éternel lui-même. Par exemple, nous lisons en Deutéronome 18:16, il répondra à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'Ecclésia. Nous dit la version des Septante. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel et que je ne vois plus ce grand feu. Qu'est-ce qu'était, j'allais dire, une ecclésia, puisqu'on parle de ce mot-là, dans l'Ancien Testament, qui est rendu à partir du mot kahal. C'était un ensemble de personnes appelées du reste des autres, et pour ce qui a concerné Moïse et le peuple d'Israël, qu'il était venu sortir d'Égypte, un peuple donc sortant d'Égypte grâce au sang de l'agneau. Et c'est grâce au sang de l'agneau qu'Israël est sorti d'Égypte. L'Éternel était passé un soir, et là où il avait vu le sang sur le linteau de la porte, il n'avait pas frappé. Tandis que toute l'Égypte fut atteinte par une plaie épouvantable, Israël avait été épargné par le sang de l'agneau et était ensuite sorti d'Égypte. Mais quelle annonce, j'allais dire, prophétique de l'Église, laquelle est sortie du monde, l'Égypte, une image du monde. L'Égypte étant appelée hors de, nous le disions tout à l'heure, précisément hors du monde. Comment ? Par le sang de l'agneau. Alors, du véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour pouvoir se rassembler en Jésus-Christ et former ensemble cette Église qui lui appartient. Dans le mot hébreu, rendu par église, ecclésia, ça n'est pas un ensemble de personnes qui auraient choisi d'être ensemble, par exemple. Comme cela peut se faire au niveau d'un club. Vous en avez certainement des clubs. Hein. Il y a même le club Med hein, en France. L'église, c'est pas du tout le club méditerranéen. Hein. Pas du tout. Ce ne sont pas des personnes qui ont choisi d'être ensemble, j'allais dire, parce que ça leur plaisait d'être ensemble, pas du tout. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été appelés. Oh, il y aurait beaucoup à dire, je peux donner toute une réunion simplement sur le terme « appelé » en grec. Qui ont été appelés, hors d'eux pour former. Ceci, en fait, cette idée échappe un peu dans la notion grecque de l'Église. Voilà pourquoi Dieu a voulu aussi faire intervenir le mot hébreu pour nous faire comprendre ce qu'il entend par l'Église. Mais l'Église, dans la pensée hébraïque, le rassemblement, si vous voulez, le rassemblement des Juifs avec Moïse, a été en fait une convocation de l'Éternel. Et une convocation avec autorité. Il faut garder cela à l'esprit. Quand nous appelons aussi les hommes et les femmes à venir au Christ, il faut que nous le fassions avec l'autorité du Seigneur, afin qu'ils se sachent appelés de Dieu. La Bible dit que tous sont appelés, mais précisément peu, hein, sont. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais il revient à l'homme de choisir ou de ne pas choisir, de répondre à cet appel de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment important, avec pour appui des textes bibliques, pourquoi Dieu a appelé les Juifs, pourquoi les a-t-il appelés hors d'Égypte pour se rassembler, Deutéronome 18-16. Premier point, le rassemblement. À partir de là, nous dégageons des idées bibliques sur ce que la Bible entend par l'Église. Ensuite, il a appelé ce peuple pour le rassembler hors d'Égypte. Dans quel but ? Pour lui donner d'adorer l'Éternel. Pour lui donner de le célébrer. Exode 5, 3. Moïse était allé vers Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, afin qu'il aille célébrer l'Éternel au désert. » Fantastique cela. Hein? Alors nous sommes appelés en tant qu'Église à nous rassembler pour célébrer l'Éternel, pour l'adorer. Oui, un peuple d'adorateurs que Dieu veut pour lui, afin qu'il soit adoré de lui. Et puis aussi, Exode 19, pour lui célébrer une fête. N'oublions pas que le salut est une fête. On l'a oublié souvent. Et parce qu'il est une fête, mais c'est une fête que d'être sauvé, non ? Oh, ceux qui se convertissent, les nouveaux convertis, nous donnent un exemple remarquable. Hein? Parce que vraiment là, dans leur premier mois de conversion, ils vivent la fête. Hein? Et nous quoi ? La grisaille, hein? Parce que plus anciens convertis. Alors on a des têtes, nous, quand ils nous regardent, ils nous disent « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux ? Vous êtes au Seigneur depuis tellement d'années !» Mais oui, en tout cas, il faut aussi préciser que tout chrétien que nous soyons, de longue ou de courte date, on peut passer par des moments difficiles. Mais n'oublions pas que le salut est une fête et que toutes les fois où le Seigneur nous réunit, c'est pour lui faire une fête. Il le convoquait, ça c'est encore une idée. Dans l'Ancien Testament, il le convoquait pour que ce peuple puisse entendre sa voix. Oh, c'est tellement d'importance, cela. Est-ce que quand nous nous rassemblons, nous entendons la voix de Dieu ? Le Seigneur nous veut ensemble pour que nous l'entendions, ensemble, nous parler, nous dire... Encore que nous soyons chrétiens de longue ou de courte date, ce qu'il attend de nous. Mais c'est tout à fait ce que Jésus a aussi enseigné à propos de l'Église. Mes brebis, il commence avec quoi ? Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur ? Ensemble ? Alors certains disent, oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église pour entendre la voix du Seigneur. Moi, je reste chez moi avec ma Bible. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas parce qu'il y a de grandes bénédictions attachées au rassemblement. Mais que très souvent on veut ignorer. Ça ne tient pas. Je dis souvent qu'une chaise a quatre pieds. Et que pour que nous soyons en sécurité assis sur une chaise, il lui faut quatre pieds. Et si un pied est enlevé, alors nous ne sommes plus que sur trois pieds. On commence à faire de l'équilibre instable. Hein. Les quatre pieds, normalement, représentent quoi ? La prière pour le chrétien. La prière, on enseigne ça aux nouveaux convertis. Donc, la prière, la parole de Dieu, l'Église, le témoignage. Voilà les quatre pieds. Enlevez un pied, vous êtes en équilibre instable. Hein. Vous avez beau insister pour fortifier le pied de la lecture biblique, vous lisez votre Bible du matin au soir, mais vous dispensez de l'Église, zéro. Ça ne tient pas parce que vous devez appartenir à une famille locale au sein de laquelle avoir votre place, vos occupations, vos engagements. Et il faut, pour avoir un christianisme solide, et bien assis ses quatre pieds. Sinon, rien à faire, ça cloche. Et quand on pense que certains sont assis sur une chaise, la chaise de leur christianisme, sur deux pieds. Alors ça, c'est vraiment du, hein, l'équilibrisme. Et vous en avez aussi qui tiennent sur un pied. On voit lors de présentations de cirque des hommes capables de se tenir les pieds en l'air sur une chaise en équilibre instable, mais ils ont mis du temps à y parvenir, et puis de toute façon, ça n'est pas de cette façon-là qu'une chaise doit couramment s'employer. C'est absolument exceptionnel, et cette exception confirme la règle. Donc, appelez pour entendre ensemble la voix de l'Éternel. Deutéronome 18:16, par exemple. Dieu avait convoqué son peuple en Horeb pour lui faire entendre sa voix du haut de la montagne. Mais cette voix avait été tellement insupportable à entendre qu'Israël avait demandé que cette voix cessa de se faire entendre, justement. Et puis, quatrièmement, appelé hors d'Égypte. Donc, je reprends, pour se rassembler, premièrement, pour adorer, deuxièmement, pour entendre la voix de Dieu, troisièmement, et pour servir l'Éternel, quatrièmement. Et que de fois Moïse avait dû dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il serve l'Éternel. » Exode 7:16, Exode 7:26, Exode 8:17, Exode 9:9, Exode 9:14, Exode 10:3, c'est fou. « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Est-ce que nous servons l'Éternel? C'est même sur ce point que l'emphase est mise. Le plus. « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Est-ce que nous servons? De quelle façon servons-nous? Quel est mon engagement dans mon église locale? Vous savez, lorsque le Seigneur m'a donné de créer nation, la première chose qu'il m'avait inspiré de faire, c'est une liste. Une liste offrant tous les services possibles dans cette église toute naissante de la nation qui réunissait très vite une centaine de personnes. Alors, j'avais distribué massivement cette liste en demandant à chacun de pouvoir pointer sans prendre de décision définitive parce que il importait de placer cela devant Dieu ensemble et de voir avec les responsables de l'Église, si les services désirés convenaient vraiment. Mais j'avais trouvé tout un tas de services possibles dans une Église pour que tous ces chrétiens nouvellement convertis aient pu s'engager afin de réellement servir Dieu, servir Christ dans son Église. Il y a déjà tellement de chômage au dehors de l'Église, hein, au plan économique, mais que de chômage aussi dans l'Église du Seigneur. Si les taux en France atteignent 11-12%, c'est peut-être les mêmes taux que vous avez, il me semble que souvent dans l'Église, ils peuvent atteindre 70%, 80% du nombre des chrétiens de nos églises, où que ce soit, sur cette terre souvent, eh bien non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, avant de décider quel serait mon engagement dans l'Église, il faut peut-être penser à quelque chose. Ça n'est pas du tout interdit, au contraire. Mais il faut l'envisager avec l'autorité établie de Dieu dans l'Église. Sinon, c'est la pagaille, c'est la foire. Or, l'Église est véritablement une maison, et le sens de l'Église, j'allais dire maison, mais maison spirituelle, parle précisément d'ordre et de discipline. Il ne faut pas décider les choses soi-même pour dire ensuite qu'ils m'aiment me suivent. Ça ne marche pas. Il faut voir ce que nous envisageons au plan d'un service éventuel avec l'autorité établie de Dieu dans l'Église. Voilà donc de quoi s'inspire le mot « ecclésia ». En grec, le mot « église », il s'inspire du sens grec en même temps que du sens hébraïque. Essayons donc à partir de là de dégager une définition de l'Église et je pense que pour commencer nous en resterons là. Il y aurait tellement à dire, hein. Mais pour que vous puissiez revenir les soirs prochains, nous allons éviter de trop prolonger. Une définition, il est important de commencer de dire ce que l'Église n'est pas. Nous avons été tellement influencés par des définitions qui n'ont rien à faire avec l'authentique définition. L'Église n'est pas une organisation structurée à la façon des hommes, pas du tout. L'Église n'est pas une société d'hommes et de femmes qui se sont organisés eux-mêmes entre eux afin de pouvoir exercer certains rôles comme cela, pas du tout. L'Église n'a rien du club privé, pas du tout. L'Église n'est certainement pas une institution à la façon des hommes, une institution morte, pas du tout, ni un édifice de pierre, pas du tout. Ce qu'elle est, quoi alors? Un groupe de croyants, sauvés par grâce, appelés par Dieu lui-même. Si nous sommes sauvés ce soir, tous autant que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a appelés et que nous avons entendu sa voix. Appelés par Dieu lui-même hors du monde pour former ensemble un corps, le corps de Christ qui nous occupera demain soir, parce que l'étude du corps est tout à fait unique et n'a aucune référence dans l'Ancien Testament. Si par exemple le mot « ecclésia » a sa référence dans l'Ancien Testament, si d'autres termes ont leur référence dans l'Ancien Testament, jamais celui du corps. Et ce soir, ce sera toute une richesse à découvrir. Donc un groupe de croyants sauvés par grâce, appelés par Dieu lui-même, hors du monde, pour former un seul corps, un corps vivant, le corps de Christ. C'est encore le rassemblement fraternel de ceux et celles qui partagent ensemble la vie de Christ, la même foi, le même Seigneur, la même espérance, et qui sont réellement ensemble à partir d'une union vraie, vivante, et ce, par le Saint-Esprit. Et ceux qui ont, j'allais dire ceux, c'est un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, à l'origine de l'Église, ont travaillé de la manière suivante. Jésus a dit, Dieu appelle. Personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'a appelé. Hein. Donc en Jean 6, 44, ce que Dieu appelle, Christ les sauve, le Saint-Esprit les habite. Voilà un peu comment travaille la Sainte Trinité qui est un seul Dieu. Et c'est de cette façon-là que l'Église se fait, se constitue, se construit. Et aujourd'hui, elle est encore en chantier. Pourquoi? Parce qu'elle est encore sur la terre. Et lorsque le dernier païen sera entré dans l'Église, comme dit l'apôtre Paul aux Romains, l'Église n'aura plus sa raison d'être ici-bas. Elle sera enlevée aux cieux, c'est-à-dire vers sa destinée éternelle, selon cette parole de l'apôtre en 1 Corinthiens 15. Si ça n'est que pour ce monde que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors il y a évidemment dans le mot « église » des notions d'édifice, mais d'édifice spirituel, des notions de pierre, mais de pierre vivante. Le Seigneur étant, lui, la pierre angulaire, hein, sur laquelle reposent toutes ces pierres vivantes que nous sommes, ces pierres spirituelles qu'il est allé chercher dans les carrières de ce monde pour faire son Église à lui, son édifice spirituel. L'apôtre Pierre l'enseigne en ces termes, en 1 Pierre 2, 4, « Approchez-vous du Christ, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Une maison spirituelle. Voilà donc une définition que nous avons tenté de dégager de l'Église. Et déjà, nous en avons dit long sur notre engagement vis-à-vis de l'Église. Pour terminer, je rappellerai cette parole du Seigneur. Christ a aimé l'Église. Est-ce que nous l'aimons, notre Église ? Moi, j'aime l'Église universelle, ça ne veut rien dire. Elle est invisible. Encore que nous l'aimons, cette Église universelle, faite de tous les vrais enfants de Dieu de par le monde, mais de façon concrète. Comment est-ce que je peux servir l'Église universelle ? Sinon, au sein d'une Église locale. Christ a aimé l'Église, et puis nous faisons la fine bouche vis-à-vis d'elle. Au lieu de faire comme lui, il a aimé l'Église de façon concrète, avec des mots, non. Il s'est donné lui-même pour elle. Est-ce que je me donne pour l'Église ? C'est à ce niveau-là que se situe mon engagement personnel. Il s'est donné, lui, certes, pour la sauver, hein, pour la purifier. Pour ce qui nous concerne, c'est différent. Nous nous donnons pour la servir, pour travailler à son avancement. Mais comment, Alain Chouaki, je travaille à l'avancement de l'Église quand on me dit, tiens, tu vas prendre un paquet de traités et tu vas les tamponner. Est-ce que vraiment je travaille à l'avancement de l'Église ? Certainement. Certainement. Et le Seigneur commence par de petites tâches, des tâches souvent très humbles, mais d'un grand prix à ses yeux, pour ensuite nous confier des tâches plus importantes. Il nous attend au tournant pour tester notre fidélité, notre engagement vis-à-vis de lui. Alors si on commence par le tamponnage de traités, eh bien faisons-le avec joie, louant le Seigneur et travaillant réellement pour lui. C'est peut-être mille et une choses que le Seigneur nous demande. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Très souvent, quand déjà nous demandons une réunion de plus en semaine aux chrétiens, à la seule réunion existante, je ne sais pas combien vous en avez, je n'ai pas fait ma petite enquête, je n'ai pas l'habitude de travailler comme cela, mais ayant été moi-même dans des églises à Paris pendant longtemps, je sais ce qui peut en être. Des églises, le dimanche matin, on affiche complet. À la réunion de la semaine, il y en a une seule, trois pelés, deux tondus. C'est dur à encaisser, ça. Alors on se dit, moi, est-ce qu'ils sont passés ? Bien entendu qu'il existe des cas de force majeure empêchant les chrétiens de venir, quand une maman a de petits-enfants, etc., quand un frère en Christ pour son travail est parti au loin. Il y a des cas de force majeure, mais la plupart du temps, c'est que nous n'avons plus le goût de l'Église. Nous n'avons plus le goût de la prière. Le goût de l'engagement. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est sérieux. Nous n'avons plus le goût du rassemblement. Et l'Église, elle se passera de nous. Mais c'est à décourager les plus vaillants. Christ a aimé l'Église de manière concrète. Il s'est donné lui-même pour elle. Il n'est pas resté là-haut pour dire « Je pense à vous, allez-y ». Heureusement, parce que c'est comme cela que très souvent nous agissons, nous. Hein. Je ne serai pas à la réunion de prière, mais je vais prier pour vous. Non, c'est ma présence qui doit être là. Et le Seigneur m'attend. Je ne serai pas à la réunion d'études bibliques. Alors comment est-ce qu'on va entendre ensemble la voix de Dieu qui convoque pour parler ? On n'est pas là. Que c'est important. Comment puis-je savoir sa volonté, ses directions? Comment puis-je grandir dans la connaissance de sa personne magnifique? Je ne suis pas là. Alors que Dieu a qualifié des frères pour qu'ils nous parlent de sa part, afin que nous puissions entendre sa voix. Christ a aimé l'Église. Et je voudrais, en vous quittant ce soir, rappeler ça, rappeler cette parole. Christ a aimé l'Église, et vous, et moi. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous la portons sur notre cœur? Je vais dans des églises, on me dit, vous savez, le pasteur là. Bon, je suis heureux, il n'y a pas de pasteur ici. Alors comme ça, ça va mieux. Enfin, vous en avez plusieurs quand même. Hein, là. Christ a aimé l'Église, c'est vrai, mais si vous saviez le pasteur, si vous saviez les responsables, les anciens, si vous saviez... Mais alors la question est la suivante pour moi, je la pose. Hein. Est-ce que vous priez pour votre pasteur tous les jours? Si vous priez pour lui, et pour vos anciens, et pour vos diacres, et pour vos diaconèses, vous ne pourrez plus les pointer. Vous les porterez au Seigneur dans votre cœur. Et vous apprendrez à les aimer tels qu'ils sont. Où sont-ils, ces serviteurs qui soient parfaits, mes amis? Christ a aimé l'Église. Et vous devez vous poser la question. Le Seigneur a choisi ce pasteur pour mon Église. C'est lui qui l'a fait. Et lui l'accepte tel qu'il est, l'aime tel qu'il est. Et moi, je n'y arrive pas. Alors, quelque chose ne joue plus avec le Seigneur, ou mes anciens, si on tourne, j'allais dire, en assemblée de frères. Alors, il y a des anciens. Et les anciens, si on était à leur place, hein, on ferait autre chose. C'est tout le temps ce qu'on entend, mais c'est vrai. Alors prions pour eux, portons-les au Seigneur, et puis nous n'aurons plus le temps de les pointer, au contraire. Nous allons apprendre à les aimer de la part du Seigneur. Vous savez, très souvent l'Église, c'est quoi? Une poignée d'hommes, de femmes engagés pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'Église, etc. Et autour de cette poignée, des chrétiens que j'appelle... des chrétiens satellites qui tournent autour, mais qui n'arrivent jamais à s'intégrer au noyau de base, qui porte l'ensemble. Et alors, quand on n'est pas engagé, qu'est-ce qu'on fait? On critique. C'est irrésistible. Quand on n'est pas engagé, on critique, on pointe. Et on pointe ceux qui n'en peuvent plus de porter ce qu'ils portent, c'est vrai ça. Tellement ils sont chargés. Mais nous, on ne touchera pas du petit doigt les fardeaux dans l'église. On ne s'y engagera pas. On va peut-être aller chercher une autre église un peu plus... Hein? Eh bien non. Il y a peut-être tout à revoir en ce qui nous concerne vis-à-vis de notre église particulière, afin que nous puissions, comme le Seigneur, aimer l'église et nous donner nous-mêmes pour elle. Gloire à son nom. Seigneur, nous voulons te... remercier pour ta parole ce soir, qui est si pratique. Nous te demandons de nous accorder la grâce de la mettre en pratique, qu'elle nous reste et qu'elle change chez nous ce qui doit l'être, pour ta joie, pour la nôtre, et aussi pour ta gloire, ceci au nom de Jésus. Amen.